Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à Calvary-Chapelle Nice. Je vous invite en fait à vous tourner dans vos Bibles, dans Matthieu 10, verset 30, Matthieu 13, pardon, verset 24 à 30. Et je vais le lire, et puis après je vais prier pour que Dieu nous dirige dans cette étude. Alors, Matthieu 13, versets 24 à 30, et puis 37 à 43, et ça s'appelle en fait la parabole de l'ivraie. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et donc, un peu plus loin, il va expliquer la signification de cette parabole, à ses disciples. Donc Jésus dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. » Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Donc je vais juste remettre ces moments à Dieu. Seigneur Dieu, je te prie pour ces moments, que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Ouvrir nos oreilles justement pour entendre ta parole, pour qu'on t'écoute, qu'on comprenne ton message spirituellement et que ça ne reste pas une parole qui reste sans action ou dans l'oubli, Seigneur. Vraiment que ça puisse transformer nos cœurs, nos vies. Et je te prie de parler à travers moi, de moi et ton Saint-Esprit pour que ce soit toi qui parles, Seigneur, à nos cœurs. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, la parabole de l'ivraie. Alors, l'ivraie, qu'est-ce que c'est? C'est une plante de la famille des graminées qui est vivace et très nuisible aux céréales. Et en fait, donc elle va prendre la place de la bonne terre que prennent les céréales, que prennent le blé, etc. Et en plus, elle est toxique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mélangez de l'ivraie avec du blé et que vous faites de la farine, le pain, la pâte ne va pas lever. Et si ça va vous donner à faible dose une petite ivresse. Et à forte dose, c'est vraiment toxique, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Donc ça, c'est l'ivraie. Et ça posait. Les disciples comprenaient très bien cette parabole, en tout cas au niveau terre à terre, au premier degré, parce que c'était quelque chose qu'ils avaient dans leur vie de tous les jours. Ce problème de l'ivraie qui a posé des problèmes, qui pose encore des problèmes aujourd'hui, hein, peut-être. Un peu moins parce qu'on a tout ce qu'il faut avec les engrais, etc., pour les pesticides, pour protéger les plantes de tout ça. Mais en tout cas, c'était quelque chose de très concret pour eux. Voilà, et donc si on reprend la parabole de l'ivraie avec la signification que Jésus donne, ça donne un peu quelque chose comme que le royaume des cieux, en fait, c'est l'histoire de Dieu qui envoie le Fils de l'homme, qui est Jésus, semer la bonne semence, c'est-à-dire les fils du royaume sur la terre. Mais pendant que les gens dormaient, les anges dorment, je ne sais pas, le diable vient et va semer parmi ces gens, ces fils du royaume, les fils du malin, qui sont ivraies. Donc les anges viennent vers Dieu et disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a de l'ivraie maintenant, il y a des fils du malin dans le monde. Il y a du mal dans le monde. Que fait-on? Est-ce qu'on arrache le mal tout de suite et puis on repart de zéro ou... et Dieu dit non, parce que si vous vous enlevez maintenant le mal de ce monde, quelque part, vous allez aussi arracher des fils, enfin, des bons grains, des fils, qu'on appelle ça, des fils de Dieu, ou des gens qui vont peut-être se tourner vers Dieu demain, ou qui vont, ou leurs descendants vont se tourner vers Dieu demain. Donc, on peut pas faire ça maintenant. On va attendre le temps de la moisson, le temps de la fin du monde. Et à ce moment-là, eh bien, les anges seront envoyés par Dieu, retireront donc les fils du malin et les jetteront donc en enfer. Et donc les fils de Dieu seront réunis avec Dieu. Voilà. En gros, je paraphrase ce que dit la parabole avec les significations que donne Jésus. Donc ça, c'est une première chose. Et donc la deuxième chose que dont je voulais parler, c'est un autre verset que tu peux changer de diapo, qui est le Matthieu 10, verset 34 à 36, où Jésus dit une parole surprenante. Il dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors, c'est très surprenant de la part de Jésus, parce qu'en fait, on a plein de passages dans la Bible, où par exemple Romains 12, verset 18, où il nous est dit « Soyez en paix avec tous les hommes tant que cela dépend de vous. » C'est vrai, mais Jésus, on va le voir juste après, n'a pas non plus mâché ses mots quand c'était nécessaire, n'a pas fait de compromis, et effectivement, des fois, ça provoquait des tensions, et il en est mort. Donc, voilà. Donc, une année s'achève, une année de combat parfois pour nous, et on va profiter de cet été pour se ressourcer et se renouveler. Mais sachons que le combat fera encore rage dès la rentrée, et parfois même pendant l'été. C'est l'été, les congés, le 14 juillet, la France en finale, donc c'est la fête un petit peu. Et pourtant, j'ai eu à cœur de partager ce sujet qui est un petit peu moins léger, quoi, un peu plus lourd, mais qui est très important, je pense. Et nous sommes en temps de paix. Ça fait 73 ans que la France est en paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en paix sur son territoire. C'est la plus longue période de paix de l'histoire en France. Juste avant, il y avait 1815-1870, où on avait eu 55 ans de paix. Et puis après, toutes les guerres qui ont suivi. Nous sommes en paix, et pourtant, terrorisme islamique, guerre spirituelle en tout genre, satanisme, El Festival, destruction de la famille, perte des valeurs, perte des repères. Un homme peut se marier maintenant avec un homme et avoir des enfants par adoption aujourd'hui, avec l'aide de la science peut-être demain. Une femme également avec une femme. Le divorce est une modalité, le mariage traditionnel est une exception. Avec plus de 80% des jeunes vivant hors mariage, en union libre, bien plus que tous les mariages et pacs réunis, qui sont à peine 20% des jeunes. Hommes et femmes sont devenus interchangeables et non sexués a priori. Ils vont choisir leur sexe en fonction de leurs envies. Les églises se ferment parfois, pas mal d'églises se ferment, c'est vrai. Les chrétiens sont souvent stigmatisés, ridiculisés. L'héritage chrétien est moqué, considéré rétrograde et combattu. Les crèches de Noël sont interdites. Où tout cela va-t-il nous mener ? Et quel est le rôle de l'Église et des chrétiens? Voilà, donc j'ai intitulé ce message « Le combat et la guerre spirituelle ». Donc voilà, c'est pas un sujet léger, mais c'est un sujet réel, et qui, je pense, je le sens vraiment très réel aujourd'hui en France et dans le monde. Alors pour le plan de cette étude, j'ai prévu donc trois parties. Une première partie où on va faire le constat de la guerre spirituelle, que c'est bien une réalité dans le temps historique, dans l'espace, partout dans le monde, mais également aujourd'hui en France. Et que faire face à ce constat en tant que chrétien? Est-ce qu'on doit être pacifique ou combattant? Donc il y a toujours ce dilemme pour les chrétiens, pacifique ou combattant. Et quel est l'exemple des grands hommes de Dieu dans la Bible? Et puis enfin, oui, mais comment, si on doit combattre, comment combattre? Alors, il ne faut pas se tromper d'arme. Il y a le combat intérieur, la guerre extérieure, au niveau spirituel. Savoir que Dieu est avec nous et Dieu a déjà remporté la victoire. Donc la guerre spirituelle, une réalité historique. Alors déjà du temps de Jésus, encore bébé, Joseph et Marie ont dû s'enfuir en Égypte pour protéger Jésus, menacé de mort par Hérode. Donc déjà là, le diable était à l'œuvre pour empêcher le salut de Dieu, si c'était possible bien sûr. De son vivant, Jésus était doux avec la femme adultère, ses disciples, les pécheurs en général, enfin les hommes qui étaient pécheurs mais ouverts à son enseignement. Mais il n'hésitait pas à dire les quatre vérités aux religieux de son époque, hein, la haute société religieuse de son époque, qu'il traitait de race de vipères. Il ne mâchait pas ses mots, d'hypocrite, et il chasse les marchands du temple. Donc c'était pas quelqu'un qui, on a l'impression que le chrétien doit tendre la joue gauche, quand il s'est frappé sur la joue gauche, doit tendre la joue droite. Il y a des combats quand même que Jésus a menés, où il n'était pas là à marcher sur la pointe des pieds pour pas écraser les œufs. Il était là, il rentrait dedans, il n'avait pas de langue de bois, il faisait pas politicien, quoi. Il avait une langue de vérité. Donc c'était son combat. Et ça lui attire la haine de toute la société de son époque, enfin la haute société religieuse de son époque, qui sont jaloux et qui ne le supportent pas parce qu'ils ne respectent pas l'ordre établi et leur autorité. Et il va finir par en mourir sur la croix. Ensuite, la guerre spirituelle continue. Enfin, elle était déjà même avant Jésus, mais elle continue après avec les premiers chrétiens. Qui sont combattus par les juifs religieux et les romains, emprisonnés puis mis à mort par lapidation. Donc ça c'est Étienne et plein d'autres martyrs. La crucifixion, dévorée par les lions dans les arènes. Et ça, ça dure jusqu'à l'an 300 à peu près, quand l'empereur Constantin arrive au pouvoir et se convertit au christianisme. Donc là effectivement il y a un changement radical. Le christianisme devient religion de l'État romain. Et donc, le combat spirituel se fait plus sournois après. C'est beaucoup plus discret. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de combat frontal. Ça va plutôt être de persécution aussi violente. Par contre, ça va être, on va distiller du mensonge petit à petit dans l'Église. On va rajouter des commandements à l'enseignement de Jésus, des traditions, de la superstition également. Voilà. Vient ensuite les guerres de religion. On a eu Saint-Barthélemy en France et le massacre des protestants fin du XVIe siècle. Mais il y a encore bien d'autres faits dont on pourrait parler. L'origine de tout ça, Ésaïe 14, versets 11 à 15 nous dresse un peu le portrait. C'est la chute de l'ange de lumière. Et également la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc là, c'est Ésaïe qui nous décrit ça. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. » Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc là, on a toute l'explication de pourquoi on en est arrivé là. C'est que l'ange de lumière, qui était Lucifer, a voulu se rendre égal à Dieu, voire au-dessus de Dieu, donc par orgueil. Et donc Dieu l'a rejeté sur terre. Et maintenant, il cherche à entraîner à sa suite des anges et puis le maximum d'âmes humaines. Voilà. Donc, et pareil pour la chute d'Adam et Ève, c'est aussi un petit peu par orgueil que Adam et Ève ont voulu goûter du fruit qui était interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour s'ouvrir les yeux parce que Satan leur a dit « Oui, mais attendez, vous serez comme des dieux. » C'était vraiment... Voilà. il savait comment les tenter. Vous serez comme des dieux, donc par orgueil et par... pour être comme des dieux, en fait, ils ont dit, oui, pourquoi pas, on va tester ce fruit qui est défendu. Et de toute façon, le diable leur a dit, vous ne mourrez pas. Effectivement, ils ne sont pas morts tout de suite. Par contre, la mort est arrivée après. Et ce péché a fait rentrer, le péché dans la race humaine, dans le sens où maintenant les hommes connaissaient le bien et le mal, étaient libres de faire le bien et le mal, et bien sûr, ils ont fait aussi le mal, et beaucoup de mal, voilà. Donc ça, c'était la réalité historique. Maintenant, la guerre spirituelle, c'est aussi une réalité géographique. Alors là, j'ai repris des écrans, en fait, du site web de l'ONG Porte Ouverte, hein, qui est spécialisée dans la persécution des chrétiens, qui est une ONG chrétienne qui aide les chrétiens persécutés et qui recense également les persécutions dans le monde. Et donc sur l'écran de droite, on va voir en fait tous les pays où la persécution est forte, c'est les pays en jaune, très forte en orange, ou extrême. Extrême, c'est en rouge, donc là c'est dès qu'on sait que vous êtes chrétien, vous êtes presque mis à mort, quoi. C'est la prison et puis la mise à mort. Donc c'est tout ce qui tourne autour du Moyen-Orient, le nord de l'Afrique, jusqu'à la Chine, et puis un petit peu aussi dans les Amériques du Sud et du Nord, mais beaucoup moins. Voilà, donc ensuite, pour les chiffres, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, on estime à 2,5 milliards de chrétiens, toutes tendances confondues dans le monde. Donc, alors, il y a beaucoup de chrétiens en France qui seraient comptés là-dedans, qui ne sont pas vraiment chrétiens, ils sont juste baptisés. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes. Et en tout cas, il y a 2,1 millions qui sont persécutés, soit 10%. Et comme je vous dis, je pense qu'il y a peut-être beaucoup moins de chrétiens réels que ces 2,5 milliards. Ça fait beaucoup plus que 10%. Ce qui fait du christianisme la religion la plus persécutée au monde, de loin. Ensuite, là, je présente les différents mouvements religieux. Donc, il y a les chrétiens pour un tiers à peu près de la population, les musulmans pour 25%, un peu moins, puis les athées, 16%, les hindous, 15%, et puis après, on descend 7% pour les bouddhistes. Et on voit que les juifs, c'est tout petit, c'est peut-être 1%. Voilà. Alors, maintenant, la guerre spirituelle aujourd'hui en France. Donc, c'était dans l'histoire, on l'a vu. Il y a eu des persécutions des premiers chrétiens. Géographiquement, on sait qu'il y a des pays où il y a des chrétiens persécutés. Mais aujourd'hui, en France, il y a un combat spirituel dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est vraiment violent, et partout, d'ailleurs, dans les pays, même aux États-Unis. Voilà. Donc, il y a d'abord un combat au niveau sociétal et philosophique. Donc, il faut savoir, je pense que c'est important de... J'avais lu un livre qui était très intéressant là-dessus, qui expliquait un petit peu les forteresses spirituelles françaises, qui remontent presque à la Révolution, ou même des fois on dit à la Saint-Barthélemy, quoi, avec le massacre des protestants. En tout cas, la Révolution française, avant la Révolution française, il y avait trois ordres établis. Il y avait les nobles, la noblesse, le clergé, l'Église, et les paysans ou les travailleurs. Après au moment de la Révolution française, les Français ont dit « on ne veut plus de ça ». Donc ils ont jeté les nobles, le roi, qui a été décapité, mais ils ont jeté également le bébé avec l'eau du bain, parce qu'ils ont jeté Dieu. Ils ont jeté également le clergé. Et ça, c'est effectivement frappant, parce que toute l'époque qui a suivi, en fait, c'est un rejet de l'Église très violent. Et pendant tout le 20e siècle, on a eu des affiches, des propagandes anti-chrétiens très très violentes, très virulentes, pendant quasiment un siècle. Et puis ça continue, hein, on a toujours des gens qui sont prêts à manger du chrétien et à être très virulents sur tout ce qui est christianisme. Il y a également le combat des idées au niveau philosophique. Donc on a pas mal de mouvements. Donc en France, on dit qu'on est cartésien, c'est-à-dire qu'on Descartes est très important, la logique avant tout. Et Descartes était chrétien, mais par contre, on a pris de Descartes la logique et on a dit voilà, tout ce qui est pas logique, pas scientifique, tout ce qui est spirituel, on n'en veut pas. C'est pas. Après, on a le mouvement relativisme, le relativisme, enfin, le relativiste, on va dire. Les relativistes, c'est ceux qui disent que toute idée se vaut. Toute idée se vaut. Donc en fait, tu penses qu'il y a un Dieu, très bien, c'est ta vérité. Moi, je pense qu'il n'y en a pas, ou je pense que le Dieu, c'est Allah, c'est ma vérité. Et à la limite, on n'a pas besoin de débattre, parce que toutes les vérités se valent, et on verra bien. Okay ? Donc ça, c'est un mouvement également qui affaiblit un petit peu l'héritage chrétien. Ensuite, on a également les mouvements tels que l'hédonisme. L'hédonisme, donc, c'est « mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Donc profitons de la vie, parce que de toute façon, on meurt demain, et voilà, donc on va se donner à tous les plaisirs possibles, imaginables, et c'est très très présent, c'est une pensée qui est très présente chez nos contemporains. Et puis on a l'humanisme. Alors l'humanisme, ça paraît peut-être un peu plus sympa comme philosophie, mais c'est aussi, en fait, on va chercher à puiser dans les réserves de l'homme. On pense que l'homme est suffisant pour trouver des solutions à l'humanité. Ça, c'est l'humanisme. Donc, c'est en fait une philosophie qui rejette Dieu en premier. Qui rejette Dieu, on dit, voilà, c'est l'homme qui va trouver les solutions par son intelligence, par le progrès, etc. Et après, on a les transhumanismes, qui est un petit peu l'étape après. C'est, voilà, c'est vraiment lié au progrès scientifique. On va changer l'être humain avec le progrès scientifique. Donc, c'est presque les cyborgs, hein, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, mais pour améliorer l'humanité. Mais c'est, voilà, c'est sans Dieu. On a rejeté Dieu là aussi. Et c'est bien le problème, parce que toutes ces réponses, effectivement, vont mener au chaos. Et puis, donc, dans les mouvements philosophiques, après, on a des mouvements plus contemporains qui sont le communisme, qui est aussi, voilà, on va chercher des solutions sans Dieu, surtout sans Dieu, parce que, en fait, les communistes sont très, très antichrétiens. Ils vont dire que la religion est l'opium du peuple. Hein. Et on a le mouvement féminisme. Donc les féministes, c'est pas vraiment une philosophie, mais en tout cas c'est un mouvement de pensée qui a démarré en disant voilà, il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas égales de l'homme. Donc ils ont combattu pour que les femmes soient égales de l'homme. Mais ce combat continue, et maintenant non seulement qu'elles doivent être les femmes doivent être égales de l'homme, elles doivent être l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de distinction, ça va jusqu'à dire qu'il n'y a plus de distinction entre l'homme et la femme. C'est le féminisme qui nous conduit à cette théorie du genre qui dit que voilà, chacun est libre de choisir, homme, femme, ou entre les deux. C'est le féminisme qui a conduit à la contraception, donc perte de natalité dans nos pays, à l'avortement, avec des millions d'enfants tués. Aux femmes aussi, les femmes, donc c'est les femmes qui provoquent seins nus et qui rentrent dans des églises comme ça pour provoquer, en disant donc il y a bien une notion de spirituel dans tout ça, parce qu'elles rentrent dans une église et puis on a des images choquantes. Moi, je me rappelle d'une femme qui était rentrée dans l'église Notre-Dame à Paris. Et qui avait donc ouvert son corset et qui avait simulé, je crois, l'avortement du Christ. Enfin bon, c'est vraiment très très violemment spirituel. Voilà. Et tout ça a des conséquences. Alors là, j'ai montré que les conséquences sur le divorce notamment. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit. Là, j'ai deux graphiques. Un premier graphique qui montre combien de temps les gens restaient ensemble en fonction des générations. Donc ensemble, mariés ou en union libre, et on s'aperçoit que la tendance, c'est que les gens restent de moins en moins ensemble. C'est-à-dire qu'avant, dans les générations 48-57, jusqu'à 40 ans de vie ensemble, de vie commune, il y avait plus de 60% de la population qui restait 40 ans ensemble. Dans les générations des 78-87, ben, au bout de 5 ans déjà, on est à que 70%, donc il y a 30% qui sont déjà séparés au bout de 5 ans. Et au bout de 10 ans, on est à 40% qui sont séparés. Voilà, c'est une tendance très lourde. Et donc là, et puis également le constat, donc c'est par rapport à l'impact sur les enfants. Les enfants, on s'aperçoit également, c'est le graphique d'à côté, que ben entre 0 et 3 ans, ils ont quand même une bonne chance d'être avec leurs deux parents. Donc 95% sont avec leurs deux parents. Et par contre, ça chute très très vite. Ce qui fait qu'à 6-8 ans, ils sont plus que 50% à être avec leurs deux parents. Et entre 15 et 17 ans, il y en a à peine 5% qui sont encore dans une famille avec leurs deux parents. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont ballottés. Enfin, voilà. Donc, ça a des impacts. On ne peut pas, je pense. Enfin, il y a forcément des impacts. Mais ça, c'est juste pour la partie divorce. Je ne parle même pas des impacts que peut avoir le mariage pour tous, entre guillemets, où des enfants seront élevés par deux hommes ou deux femmes, avec toutes les séquelles qu'on peut imaginer, même si Dieu peut les protéger aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est des... Voilà, donc la slide juste après. Donc là, je vous invite à regarder 2 Timothée 3, qui nous explique un peu tout ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Voilà. Enfin, je m'arrête presque là. Déjà, je crois que c'est un bon descriptif de ce qu'on a aujourd'hui autour de nous. Enfin. Donc c'était déjà prédit en fait. Donc cette guerre, elle est bien présente même dans nos pays civilisés entre guillemets occidentaux. Elle est en nous, elle est à l'extérieur de nous, entre des principautés, des esprits mauvais qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là. La bataille fait rage, et on peut même avoir l'impression que le combat s'intensifie. Dans la guerre des idées, la remise en cause de notre héritage chrétien. J'ai même vu pendant les débats du mariage pour tous des sénateurs qui avaient une discussion entre eux et qui disaient « Oui, mais non, il ne faut pas qu'on réfléchisse avec l'héritage chrétien. Il faut qu'on se désolidarise de ça et qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Voilà. » Et là, on pourra avoir une vision juste des choses. Et c'était des discussions entre sénateurs. Donc voilà où on en est. Voilà, certains veulent se mettre à la place de Dieu en créant de nouvelles familles par procréation médicalement assistée. Et puis à l'école, on a des guerres idéologiques importantes, notamment avec tout ce qui est stéréotypage masculin-féminin. On s'invente en fait nos vérités entre le bien et le mal. Donc c'est ce que dit Dieu. À la fin des temps, les gens vont appeler bien le mal et mal le bien. Alors là, on rentre dans un domaine encore plus mauvais et dangereux, en tout cas, ce sont les arts divinatoires. C'est toute la tendance New Age et art divinatoire qui est fortement présente, malheureusement, en France. Je ne connais pas les autres pays, mais en France, c'est vraiment très fortement présent. Et par exemple, en 2018, il y a eu 17 salons importants, majeurs, de voyance et art divinatoire, salons ésotériques, médiums, etc. Accueillant des milliers de personnes à chaque fois. Et c'est très bien marketé, hein, parce que voilà, premier salon du bien-être et de la voyance. Voilà, bien-être et voyance. Et puis on voit quelqu'un qui fait du yoga. Donc tout ça, c'est flou, c'est un peu tendance. Et les gens vont dans ces salons pour voilà, le bien-être, quelque part. Et puis oui, ça coûte rien de demander à une voyante qu'est-ce qu'elle pense de telle situation. Et c'est très dangereux. Et là, on peut être interpellé parce qu'on se dit, mais la France, c'est pas le pays de la raison de Descartes. Pourquoi tout d'un coup, tous ces gens s'intéressent à l'horoscope, s'intéressent aux voyants Mais en fait, c'est qu'on a rejeté Dieu, mais la soif du spirituel, elle est toujours présente. Et en fait, c'est ça que les gens recherchent. Et comme on leur a dit que Dieu, c'est n'importe quoi, on va se retourner vers la voyance, et pire, des fois. Et on apprend, par exemple, c'est une étude de 20 minutes en 2015, que 24% des Français ont déjà fait appel au moins une fois à la voyance. Donc un Français sur 4. On apprend également que 30, par le magazine Science et Vie, hein, qui est un magazine sérieux normalement, que 32% des Français ont déjà été confrontés à une expérience paranormale. Et moi, c'est une petite anecdote, mais je me souviens qu'au lycée, dans le bus, j'entendais des camarades organiser des soirées de table tournante. Ah, ils trouvaient ça, hey, on se fait une soirée de table tournante, ça te dit de venir. Alors je les avais interpellés, j'avais dit, vous savez ce que vous faites? C'est très très dangereux. Mais voilà, c'était quelque chose d'à la mode à l'époque. Et je me souviens également d'une autre fois où je me suis fait presque piéger. Enfin, parce qu'en fait, j'étais un petit peu fanat des jeux de stratégie et jeux de rôle. Et pendant une soirée de jeux de rôle, il y a un des amis qui a dit « Vous savez, moi, j'ai eu une expérience de table tournante et c'était vraiment incroyable et tout. Est-ce que ça vous dit de voir ce que ça donne ?» Et là, j'étais là, oh là. Et je ne savais pas trop quoi faire. J'ai prié Dieu. J'ai dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, mon Dieu m'a dit, enfin, j'ai senti que je pouvais rester. Je pouvais rester et qu'au contraire, ma présence allait peut-être faire que les choses ne se passent pas et que les gens soient moins intéressés. Et donc, effectivement, la personne a dit, bon, ben, vous vous mettez en cercle, vous donnez vos mains. Et vous fermez les yeux et vous pensez à des choses mauvaises, à de la haine dans votre cœur, etc. Et on va essayer d'appeler un esprit. Et non, c'est véridique. Hein, donc je pense que si moi je l'ai connu, je pense que certainement d'autres l'ont connu. Et moi, bien sûr, voilà, j'ai prié Dieu tout de suite. J'ai dit, Seigneur Dieu, voilà, sauve-moi. Interviens, sois présent. Parce que voilà, je sais que ces choses existent et on doit avoir du respect pour le diable et enfin du respect, la crainte et donc c'est un danger quelque part. Mais on sait aussi que Dieu est plus fort que tout ça. Donc j'ai prié Dieu. Je dis voilà que tu empêches tout cela. Et puis voilà, ils se sont tenus comme ça les mains 5 minutes et puis après ils disent je comprends pas, ça marche pas et. Je dis, oui, je sais pourquoi ça ne marche pas. C'est que Dieu était présent aussi, donc il ne pouvait pas venir, l'esprit. Là. Et on peut aller encore plus loin dans la guerre spirituelle aujourd'hui en France, c'est tous les groupes de la mouvance sataniste. Donc là, ça peut faire peur, mais on n'a pas à craindre non plus en tant que chrétien. On sait que Dieu est présent. Mais il y a l'église de Satan qui ouvre ses portes à Paris. C'était en 2017. Ils attendent 6 000 personnes. Et en plus, en petit, il mettait, voilà, vous allez découvrir une nouvelle conception ecclésiastique. Bon, c'est très bien vendu, c'est très bien marketé pour quelque chose qui est, effrayant au possible. Et puis on a donc tout l'occultisme aussi qui est présent en France et le Hellfest. Le Hellfest, c'est le festival de l'enfer qui s'est tenu chaque année, tous les ans, se tient en début d'été, donc qui s'est tenu là en juin, 23, 24, 25 juin. Pour ce qu'ils appellent les heavy metal, donc ceux qui aiment le heavy metal. Sauf que derrière tout ça, quand on creuse un peu, on voit tous les symboles qu'il y a derrière. Je vous montre pas les photos, mais c'est voilà tous les symboles anti-chrétiens au possible, la croix gammée, la croix renversée, la croix qui brûle, des choses sataniques, hein, simplement. Alors je dis pas que tous les manifestants, parce qu'il y a quand même 220 000 personnes qui vont à ces manifestations. Ils vont par intérêt sataniste, mais par contre, ils ne sont pas conscients de l'ultra-violence qui est derrière tout ça, parce qu'en fait, on peut regarder également les paroles des chansons qui véhiculent des messages d'une violence incroyable contre les chrétiens, où c'est mettez-les à mort, brûlez leurs églises, enfin, c'est vraiment des choses abominables. Et je vous passe les détails parce qu'il y a des choses qui sont révoltants et très blasphémateurs contre Jésus et contre Dieu. Donc voilà, donc c'est un festival parmi les festivals les plus importants musicaux en France. Et c'est un festival où il y a des gens qui vont là pour presque chanter des louanges à Satan et crier des blasphèmes contre Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant et très fort et qui a forcément des impacts sur la société. Alors, je parle également ici d'un sujet délicat qui est l'islam. Donc l'islam radical, conquérant et totalitaire. Parce qu'il faut savoir que l'islam, c'est aujourd'hui la première cause de persécution des chrétiens dans le monde. C'est-à-dire que quand on regarde la liste des pays persécutés que donne Porte Ouverte, ils donnent à chaque fois le degré de persécution, le pourcentage de mise à mort, etc. Et ils donnent la cause principale de persécution. Et vous allez voir, regardez la liste, c'est l'islam qui est tout le temps, quasiment là, présent en premier. Après vient effectivement le communisme pour la Corée du Nord et un autre pays, parce que c'est un régime totalitaire anti-chrétien. Et l'hindouisme aussi, voilà, pour les religions nationales qui sont aussi antichrétiens. Mais en tout cas, l'islam, c'est 80%, 90% même des causes de persécution dans le monde. Voilà, donc c'est... Et en France, on a vu tous les attentats qui sont capables de tuer un prêtre dans une église. Alors, ce n'est pas que les chrétiens qui sont effectivement touchés. Il y a également eu les attentats du 14 juillet, d'il y a 2 ans, je crois, à Nice, où tout le monde est touché. Les attentats du Bataclan, puisqu'en fait, c'est tous les infidèles sont touchés, mais c'est aussi les chrétiens, peut-être en premier les chrétiens et les juifs. En France, on a donc 2500 mosquées et 150 mosquées salafistes. Donc les 150 mosquées salafistes. Les salafistes, c'est une mouvance qui est vraiment, très, très traditionnelle de l'islam, qui demande à ce qu'on revienne à un islam des débuts, qui reprend le texte à la lettre et qui l'applique dans toute son intégralité. Et donc c'est une tendance qui pousse à avoir un islam de conquête, de guerre et totalitaire. Puisqu'en fait, l'idéal musulman, c'est une théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui contrôle, enfin qui dirige le pays. Et il n'y a aucune opposition possible. Ça, c'est l'idéal. Donc je ne dis pas que tous sont comme ça, loin de là. Maintenant, il y a quand même des dangers. On a vu tous ces attentats. Voilà, et puis dans le monde, on a vu Boko Haram qui fait des massacres de chrétiens au Nigeria. On a eu Daesh qui a fait... il y avait plusieurs millions de chrétiens qui ont été massacrés, qui ont été déportés en Syrie, en Irak, etc. Voilà. Voilà, donc maintenant on a dressé le constat un petit peu de cette guerre spirituelle qui est autour de nous. Que doit-on faire face à ce constat? Alors, le chrétien est pacifique. Hein, on nous demande d'être doux comme un agneau, d'être en paix avec tous les hommes. Et on a eu en France la génération 68, hein, après l'après-guerre, qui disait « faites l'amour, pas la guerre ». En tant que chrétien, on aimerait dire « aimez les gens, ne faites pas la guerre ». C'est vrai. C'est préférable. Oui, mais voilà, que faire quand une guerre nous tombe dessus? C'est pas qu'on l'a cherché, c'est que la guerre nous tombe dessus. D'accord? Le diable a semé des ennemis du malin. Quand c'est combattre ou mourir, ou nous renier, notre gouvernement martèle, nous sommes en guerre. Mais il n'a pas conscience de quelle guerre il s'agit, je pense. Nous, chrétiens, on a un petit peu la conscience de quelle guerre il s'agit. On doit être doux, miséricordieux, compatissant à la ressemblance de notre modèle Jésus. Mais encore une fois, Jésus s'est mis en colère et a été sans compromis face au pouvoir perverti de l'époque. Nous sommes en guerre intérieure, mais également extérieure, contre les messages spirituels mauvais qui nous entourent et qui sont très nombreux dans ce monde, véhiculés massivement par les médias, faiseurs d'opinion, par la télévision, par les journaux, par Internet. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Alors, on va voir l'exemple des grands hommes de Dieu dans la Bible. Alors, les grands hommes de Dieu dans la Bible, j'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, bien sûr. Il y a Abraham, il y a Joseph, Moïse, Josué, David, Élie, Daniel, bien sûr Jésus, mais il est au-dessus de tout ça. Est-ce qu'ils ont une vie tranquille, facile, paisible? Alors Abraham, on pourrait dire, ouais, lui ça va quand même. Mais en fait, il a dû combattre plusieurs rois pour délivrer son neveu Lot. Il a quitté son pays, sa terre natale, en Ur en Chaldée, pour suivre le plan de Dieu. Il a été prêt à sacrifier son fils unique. C'était des combats, tout ça. L'héritier promis par Dieu. Joseph, une vie facile, vendu en esclave. Il fait de son mieux, s'en tire à peu près. Il devient gouverneur d'un officier égyptien. Et paf, il y a sa femme qui lui demande de coucher avec lui. Il refuse. Il se retrouve en prison, accusé à tort, alors qu'il a été fidèle à Dieu. Et bien sûr, Dieu est là. Et il va le mettre en position de premier ministre. Mais avant tout ça, il y a eu tous ces combats. Moïse, il était prince d'Égypte. Est-ce qu'il est resté tranquille dans sa position de prince d'Égypte? Non. Il a combattu pour son peuple. Puis il a fui dans le désert. Et il a refait sa vie. Il a eu une femme, des enfants. Et puis il aurait pu dire, voilà, c'est bon, maintenant je suis bien. J'ai mon troupeau, je manque de rien. Et Dieu l'a appelé du buisson ardent. Et il aurait pu dire, non, Dieu, c'est pas pour moi. Il a commencé à vouloir le dire au début, d'ailleurs. mais il a obéi. Il est allé, et Dieu lui a demandé quoi ? Il lui a demandé d'aller voir le pharaon, qui était l'homme fait Dieu, enfin, c'est l'homme le plus puissant de l'époque. Tout seul. Enfin, tout seul, il y avait Dieu, mais en tant qu'humain, c'était quelque chose. Josué. Ben Josué, la bataille de Jéricho et toutes les batailles qu'il a dû mener face à des géants, entre guillemets, de la terre promise. Gédéon, bon, il s'y est pris deux fois quand même pour être sûr que Dieu voulait se servir de lui. Il lui a demandé un signe. Donc le signe, c'était il étendait une nappe, une toison dehors, et il demandait à ce que ça soit arrosé partout dehors, sauf sur la toison. Et Dieu a exécuté. Puis après, il a dit, oui, non, je me suis trompé. En fait, c'était tout est sec dehors et la toison est trempée. Et puis, Dieu a aussi répondu à sa demande. Bon, c'est pas toujours que... faut pas toujours tenter Dieu comme ça, mais... Et donc, Gédéon a mené un combat contre les Madianites qui arrivaient en grand nombre. C'est une énorme armée qui arrivait pour envahir Israël. Et il a dû faire un combat. Donc, il a ramassé les quelques soldats qu'il y avait en Israël. Et puis, Dieu lui dit, non, il y a trop de monde, là. Bon, Dieu, t'as vu l'armée qui sont en face ? Il y a beaucoup trop de monde. Ah bon ? Non, tu vas déjà demander à ceux qui ont peur et ceux qui ont de la famille, des enfants en bas âge, de partir. Bon, ok, donc il leur demande de partir. Et puis, il se retrouve à un nombre plus restreint, mais peut-être encore 3 à 4 000 personnes. Bon. Et Dieu lui dit, non, il y a encore beaucoup trop de monde. Comment, Dieu, il y a beaucoup trop de monde ? On est 3 à 4 000 contre 100 000 ou 200 000 là-bas, à côté. Dieu lui dit, oui, il y a beaucoup trop de monde, tu vas les emmener boire au torrent et tu prendras seulement ceux que je te désigne. Et en fait, il va choisir ceux qui vont laper l'eau avec la bouche et ils vont être 300. Donc, il va mener une bataille avec 300 personnes, 300 soldats contre une armée gigantesque. Et bien sûr, Dieu va apporter une grande délivrance. David était roi, mais il a fait de grands combats avant. Il a fait d'abord son combat contre le lion, contre les lions quand il gardait son troupeau. Il était adolescent. À 17 ans, peut-être à peu près, il a fait son combat contre Goliath, un géant guerrier aguerri. Est-ce qu'il a tremblé ? Il aurait pu trembler. Enfin, je veux dire, moi j'aurais tremblé. Mais il savait que Dieu était là. Il savait que Dieu était là et que Dieu était plus puissant que tout ça. Après, il a combattu contre les Philistins pour Saül. Il a fui devant Saül. Il a eu de nombreux combats pour sauver sa vie contre Saül. Et puis après, contre ses propres fils. Même une fois qu'il était roi, il a dû combattre contre ses propres fils. Donc voilà, on pourrait continuer les exemples. Ils sont très nombreux. Enfin, si, il y a encore Daniel quand même, qui était, pour pas renier sa foi, qui a dû être qui est fidèle à Dieu et qui est en pays étranger, etc. Il a pas une vie facile. Élie, qui a dû combattre contre les 400 prophètes de Baal à lui tout seul, alors qu'on cherchait à lui ôter sa vie. Voilà les exemples que Dieu nous donne dans la Bible. Donc encore une fois, personne ne veut la guerre, on est tous des pacifiques, et pourtant la guerre spirituelle, elle est bien là, et on a un rôle à jouer. Donc ça, c'est mon troisième point. C'est notre rôle dans ce monde. Jésus nous a demandé d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ça, c'est Matthieu 5, versets 13 et 14, tu peux peut-être changer, on voit. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà parmi les appels que Jésus a fait à ses disciples et aux chrétiens par extension, être le sel de la terre qui empêche la corruption, le mal d'avancer et la lumière du monde. En fait, en reflétant la lumière du Christ. L'autre appel étant bien sûr de faire de toutes les nations des disciples. Voilà, donc c'est en fait les trois grands appels des chrétiens, c'est ça. Et si nous ne remplissons pas notre rôle en avertissant des dangers, en présentant les vérités de Dieu, en présentant le salut, en évitant que la pourriture ne s'installe trop facilement, alors qui le fera ? On est là pour ça, c'est notre rôle. John Stuart Mill disait, et je pense que ça a été repris par Edmund Burke, mais apparemment par Thor, la seule chose pour que le mal triomphe, c'est traduit de l'anglais, donc il y a différentes traductions, pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Voilà. Donc ça résume bien. Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Alors on est pacifique, mais on doit agir. Alors, spirituellement, hein, il ne s'agit pas d'aller avec une épée au combat, mais le combat fait rage. Et j'ai une autre image qui me vient, c'est l'image du poisson. Savez-vous comment reconnaît-on un poisson mort d'un poisson vivant dans un torrent, dans une rivière ? En fait, le poisson mort, c'est le poisson qui suit le courant. Parce que les poissons vivants, ils remontent le courant. Et en tant que chrétien, on est amené à ne pas suivre le courant justement de ce monde, mais à remonter le courant. Et on n'a pas le choix, parce que si on ne le fait pas, si on ne combat pas, quelque part on est mort spirituellement. Donc ce n'est pas facile, hein, c'est un combat qui est difficile. La bataille fait rage, comme on l'a vu, avortement, divorce, destruction du mariage, théorie du genre, éthique de l'euthanasie, satanisme, El Festival, islam, tendance New Age et tout ça. Enfin, c'est vraiment un combat très violent, et puis même... Et toutes ces forteresses spirituelles qui sont aussi en France, qui viennent de toutes ces philosophies qui ont rejeté Dieu, et qui fait que les personnes sont tellement, violemment opposées au message de l'Évangile. Donc toutes ces forteresses doivent sauter. C'est la prière, c'est le combat spirituel, c'est également parler, témoigner, tout simplement. Ce n'est pas forcément un engagement politique, hein, je ne dis pas ça, quoique... Je pense qu'un engagement politique chrétien serait souhaitable. En tout cas, des personnes qui s'engagent en politique et qui sont chrétiens, parce qu'ils auront des valeurs qu'on sait justes et bonnes. Mais je sais aussi qu'ils seront combattus avec la plus grande violence. Ça, c'est sûr. Donc, je leur souhaite bien du courage, mais ça serait bien. En tout cas, voilà, la parole du chrétien est importante. On connaît notre Créateur. On sait pourquoi les choses sont faites, comment elles doivent fonctionner, quelle est la vérité. Et donc, il faut. Notre parole est importante. Quand les gens perdent la tête et qu'ils commencent à dire, voilà, on va appeler mal bien, bien mal, on va faire des familles avec deux hommes, des familles avec deux femmes, et puis tout va bien se passer. Et ben, enfin, là, je pense qu'il faut qu'on, voilà, qu'on donne notre parole, enfin, qu'on donne le point de vue chrétien et le point de vue de Dieu. Qui n'a pas voulu les choses ainsi. Quand on voit aussi tout cet occultisme, etc., on doit prévenir les gens, attention, c'est très dangereux, vous tombez là-dedans, vous ne savez pas dans quoi ça va vous attirer. Et après, s'ils sont tombés trop loin, on peut également prier pour eux, et Dieu peut faire des délivrances. Oui, mais comment ? Alors, comment combattre cette guerre spirituelle ? Donc là, voilà, c'est vraiment une guerre spirituelle. C'est pas, je ne parle pas du combat intérieur, qui est très important, mais il y a beaucoup de sermons qui parlent du combat intérieur du chrétien. Mais cependant, quelles armes va-t-on utiliser ? Il ne faut pas se tromper d'armes. Mais là encore, c'est les armes du chrétien, qui sont décrites justement pour le combat intérieur, mais qui valent tout à fait pour le combat spirituel extérieur. Le passage dans Éphésiens 6, versets 12 à 17. « Car nous n'avons... pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, la Bible. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc voilà le combat spirituel. Donc nos armes, c'est quoi ? C'est la foi, la vérité. On a la vérité, il faut qu'on s'ancre là-dedans, parce que on va être ballotté sinon si on n'est pas ancré dans la vérité. Parce qu'il y a plein de. On va sur le Internet, on a plein de sites qui expliquent des vérités, des complètement farfelues et qui finissent par convaincre. Donc la foi, la vérité, la justice, le zèle, l'assurance du salut, la parole de Dieu, la prière. Et c'est pas cité ici parce que c'est pas cité comme arme, mais il y a aussi l'amour, qui est un don de l'esprit, mais qui permet effectivement de se faire entendre. Parce que si on y va le glaive au point qu'on essaie de convaincre les gens, c'est pas la peine. Il faut faire ça avec amour pour eux et pour le salut de leur âme. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4 nous dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc ça tombe bien, on a beaucoup de forteresses en France spirituelles, donc voilà. Dieu nous a équipés avec des armes spirituelles pour renverser ces forteresses. Donc, ne pas se tromper d'armes. Le deuxième point, c'est « Dieu combat pour nous ». Alors là, c'est Josué 1, verset 9 qui nous dit « Donc Dieu parle à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est aussi Ésaïe 54, verset 17 qui nous dit « Toute arme forgée contre toi ne sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, de l'Éternel, pardon. » Donc tel est notre héritage, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. En justice, on a l'histoire de Gédéon qui remporte cette victoire éclatante, donc forcément Dieu est avec lui. On a aussi Dieu qui est là quand Israël traverse la mer Rouge, dans la prise de Jéricho, dans la victoire de David contre Goliath, et dans quasiment tous les exemples de la Bible où il y a eu des combats, Dieu est là. Donc, n'ayons pas peur, Dieu est avec nous. Dernier point, Dieu a déjà remporté la victoire. Alors, Dieu a déjà vaincu Satan, il l'a déjà précipité sur la terre, son heure est comptée. On connaît la fin, il attend juste que le blé arrive à maturité. Et l'ivresse, c'est une question de temps pour qu'il l'enlève, qu'elle soit jetée au feu. Donc qui jette le diable et ses anges à sa suite dans l'enfer, et puis les hommes qui les ont suivis malheureusement. Jean 16, verset 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc la vie des chrétiens n'est pas toujours très simple. D'ailleurs, on hésite parfois avant de se convertir. On aimerait profiter de la vie un peu avant de s'engager dans ce combat, parce qu'on sait qu'après le combat va être âpre. On devient une cible privilégiée pour l'ennemi. Et oui, parce que vous savez comment ça se passe en temps de guerre. Les soldats ennemis, ils cherchent à battre en premier les soldats de l'armée adverse. Donc si vous êtes chrétien, vous êtes soldat de Dieu quelque part, et vous serez une cible privilégiée. Donc ça fait peur. Mais ne rien faire est un mauvais choix, car on ne sait pas vers quoi on va glisser, et ne pas se convertir aussi est un mauvais choix, on ne sait pas vers quoi on va glisser ou on va tomber, ou même si on sera encore là demain pour changer de camp, parce qu'en fait, Dieu nous dit « vous êtes pour moi ou contre moi », donc il n'y a pas de demi-mesure. Dieu est patient et amour, pourtant il est aussi juste. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, nous dit l'Évangile. Semons pour l'éternité, combattons le bon combat, participons activement à ce combat spirituel. Et pour conclure, donc c'est que, en conclusion, la réalité de la guerre spirituelle, la guerre spirituelle est une réalité. D'accord ? Et ce n'est pas nouveau. Pendant toute l'histoire du christianisme, il y a eu une guerre violente spirituelle. Et il y a eu des persécutions contre les premiers chrétiens. Et il y a des persécutions aujourd'hui contre des chrétiens dans des pays qui ne sont pas si éloignés. Et peut-être que demain, il y aura des persécutions dans nos pays. Dieu nous en préserve, mais on ne peut pas barrer cette hypothèse. Mais là, il faut pas avoir peur. Donc Matthieu 10, verset 28 nous dit « Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Voilà celui qu'on doit craindre. Les hommes qui peuvent juste tuer le corps, il ne faut pas les craindre. On doit craindre seulement le diable qui peut tuer l'homme et l'âme. Donc nous sommes le sel de la terre qui empêche que la corruption avance.
Donc la corruption, elle est sociétale, elle est dans les mauvaises idées, elle est dans l'occultisme, etc. Donc voilà, c'est, l'Église est là pour empêcher que la corruption avance. D'ailleurs, certains disent que voilà, quand Dieu va retirer l'Église du monde, ça va forcément précipiter l'Apocalypse, parce que voilà, il n'y aura plus d'Église pour retenir la corruption, donc ça va se déchaîner. Il y a forcément, il y aura même pas besoin que Dieu les jette en enfer, ce sera déjà l'enfer sur terre. Voilà. Nous sommes la lumière du monde qui empêche, qui reflétons la lumière de Dieu, qui montrons le chemin, la vérité. Enfin, c'est Jésus qui montre le chemin, la vérité, la vie, mais nous, on reflète cette lumière. Voilà, notre rôle est clairement défini. Le seul moyen que le mal triomphe, encore une fois, c'est que les gens de bien n'agissent pas. Alors agissons. À la fin, l'ivraie sera jetée au feu. Dieu est avec nous et a déjà remporté la victoire. Voilà, prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, pour cette parabole de l'ivraie et de tout ce que ça nous explique sur le royaume de Dieu et pourquoi la souffrance dans le monde, parce qu'il y a ces fils du malin qui sont là, Seigneur. Pourquoi la persécution des chrétiens, parce qu'il y a des fils du malin qui sont là, mais toi, tu as vaincu tout ça. Et on ne doit pas craindre ceux qui peuvent tuer que le corps, mais c'est vrai que tu dois renforcer notre foi, renforcer toutes nos armes spirituelles, notre amour, et qu'on soit bien équipés, Seigneur, pour ce combat. Je te remets notre pays, Seigneur, les églises de notre pays, que tu puisses les faire grandir en esprit, en vérité, et qu'elles puissent agir pour, dans ce combat spirituel, Seigneur, puissamment. Et sachant que tu es là derrière, tu es même avec un petit nombre, on peut faire des choses extraordinaires. Et on veut vraiment prier pour ce pays qui a tellement de forteresses spirituelles qui l'empêchent de revenir à toi, Seigneur, pour que tu les fasses tomber et pour que voilà, qu'il y ait vraiment un réveil qui soit suscité, Seigneur, en France et dans le monde. En ton nom, Jésus. Amen.